Radio Prague, les informations.
Karel Schwarzenberg se veut rassurant au sujet du radar vis-à-vis de l'Autriche. La fermeture de plusieurs ambassades tchèques doit permettre de faire des économies. Et l'UNESCO inquiète à propos de la construction de bâtiments élevés à Prague. Pour le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg, son homologue autrichien Norbert Darabos a tort de penser que la possible installation d'une base radar américaine en République tchèque est une provocation. Schwarzenberg a ainsi réagi aux propos que Darabos a tenus dans l'hebdomadaire autrichien Die Presse, où il s'est montré dubitatif sur l'intérêt d'une telle base en Europe centrale, pour se protéger de l'Iran. Pour le ministre tchèque, le bouclier antimissile est une question de sécurité, et il a rajouté qu'il serait intégré au système de défense de l'OTAN. Rappelons que les Américains et les Tchèques en sont aux négociations quant à la possible installation de la base aux environs de Plzeň. 120 millions de couronnes, c'est ce que le ministère des Affaires étrangères va pouvoir économiser grâce à la fermeture de plusieurs ambassades et consulats à travers le monde. Outre les économies financières, c'est également 50 employés qui pourront être affectés à d'autres tâches. Le ministère des Affaires étrangères entend utiliser ses ressources financières et humaines au profit de la présidence tchèque de l'Union européenne au cours de la première moitié de 2009. La République tchèque va ainsi fermer ses ambassades à Singapour, en Uruguay, son consulat à Bonn, au Cap, à Katowice en Pologne et à Milan, ainsi qu'une représentation officielle au Zimbabwe. Devant les protestations de certains députés, le ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg a déclaré que ces économies étaient nécessaires. Le Conseil du patrimoine mondial de l'UNESCO a exprimé de graves inquiétudes quant au projet de construction de bâtiments élevés sur la colline de Pankrác à Prague. Il exige de la République tchèque qu'elle reconsidère les retombées des projets sur la ville et sa valeur. L'ensemble du centre historique de la capitale tchèque est en effet classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. L'expression de « graves inquiétudes » est le premier pas réalisé par l'organisation lorsqu'elle estime qu'un patrimoine peut être menacé. L'étape suivante peut être l'inscription au registre des monuments menacés. Les gratte-ciels qui doivent être construits sur la colline de Pankrác font depuis longtemps l'objet d'un débat du côté d'associations et d'experts en patrimoine, car ils changeraient le panorama de la ville. Le Conseil de l'UNESCO a donné à la République tchèque au 1er février 2008 pour rendre un rapport sur la façon dont elle entend s'occuper de son patrimoine. Ce jeudi commence la 31e édition du Festival de cinéma de Montréal. Parmi les 270 longs-métrages de 70 pays présentés aux spectateurs, trois films tchèques sont également projetés. Dans la section First Film World Competition, c'est le film Pusinke de Karin Babinska qui sera en compétition. Dans la section Hors concours, c'est le dernier film de Jiří Menzel, Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, et enfin un autre film tchèque, le long-métrage Bestia d'Irena Pavlaskova. Enfin, pour terminer, la météo. Vendredi, nous fêterons les Bartholomiei. La journée sera claire. Les météorologues ne prévoient guère de changements par rapport à la journée de jeudi. Des averses et des orages pourraient se manifester localement. Mais les températures restent décidément estivales et agréables en cette fin de mois d'août de 24 à 28 degrés. Une météo beau fixe donc qui devrait se poursuivre pendant le week-end. Le bulletin d'information vous a été présenté par Anna Kubishta.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Anna pour ce bulletin d'information et à vous, chers auditeurs, d'être fidèles au rendez-vous avec l'actualité en République tchèque. Au sommaire aujourd'hui, tout d'abord, la décision du gouvernement d'approuver l'envoi d'une équipe de reconstruction en Afghanistan. Une décision marquante puisque pour la première fois, les Tchèques seront entièrement responsables du développement d'une région d'un pays étranger. Autre décision du cabinet, l'adoption du projet de loi sur le registre des rejets et des transferts des polluants présenté par le ministère tchèque de l'Environnement. Une mesure qui devrait permettre de mieux contrôler les activités industrielles et agricoles à fort potentiel de pollution. Puis il sera question de sport et de football avec le match nul de la République tchèque contre l'Autriche avant de refermer ces faits événements avec une des dernières parties de notre série estivale consacrée aux impressions des touristes francophones en visite à Prague. Mais en attendant de développer plus en détail tous ces titres, toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Le gouvernement a donné son feu vert à l'envoi d'une équipe de reconstruction provinciale, dite PRT, en Afghanistan. Si le Parlement l'approuve, ce sera la première fois que la République tchèque sera chargée de la reconstruction de toute une province afghane. Plus de détails avec Jarka Gisibelova.
À l'opposé des missions précédentes, la mission PRT est une mission non militaire. Le rôle clé sera joué par les experts civils envoyés par le ministère de l'Agriculture, de la Santé publique et des Transports. La tâche confiée à la République tchèque, l'OTAN, est la plus exigeante qu'elle ait eu à accomplir jusqu'à présent à l'étranger. Les travaux de reconstruction civile seront la principale activité, mais il y aura aussi des militaires qui assureront la sécurité et participeront à la formation des forces de sécurité afghanes, dit la ministre de la Défense, Vlasta Parkanova. Nous sommes convaincus que sans l'unification des activités civiles et militaires, la stabilisation de quelconque pays qui sort d'une guerre n'aurait pas de succès. Pour la ministre, dans le cadre de l'OTAN, l'accomplissement de cet engagement est perçu comme l'un des plus utiles et est hautement apprécié. Prague le considère comme une confirmation de ses capacités de réaliser des projets civils et militaires dans des régions instables. Jamais dans le passé, la République tchèque n'a eu une équipe PRT sous son commandement. Elle faisait partie des équipes d'Allemagne et du Danemark dans la région de Badakhshan, au nord du pays. Si le Parlement appelle la mission, l'équipe tchèque de 200 membres pourra partir à la fin de l'année dans la province de Logar, couvrant une superficie de plus de 4500 km² et comptant 350 000 habitants. Selon le cabinet, ce sera aussi une grande opportunité pour les firmes tchèques, notamment celles de l'industrie alimentaire, car Logar est une importante région agricole qui approvisionne la capitale afghane et où la culture de matières premières pour la production de drogue n'est pas répandue. Le ministère de la Défense est au courant des risques de sécurité à Logar, mais qui, par rapport à d'autres provinces, ne sont pas trop élevés. Les Tchèques opèrent encore au sud de l'Afghanistan dans les forces spéciales de la police militaire ainsi qu'à l'aéroport international et à l'hôpital de campagne à Kaboul.
Le cabinet tchèque a approuvé le projet de loi sur le registre des rejets et des transferts des polluants présenté par le ministre tchèque de l'Environnement Martin Bursík. Cette mesure permettra à l'avenir aux organes compétents, mais aussi aux simples habitants tchèques, de mieux contrôler les activités industrielles et agricoles à fort potentiel de pollution.
Industrie énergétique, production et transformation des métaux, industrie minérale et chimique, gestion des déchets, élevage d'animaux. Toutes ces activités sont concernées par le nouveau projet de loi et doivent être contrôlées et enregistrées. Le ministre Martin Bursík explique cependant que le registre des rejets et des transferts de polluants n'est pas une idée nouvelle.
Nous avons déjà ce registre. Depuis 2004, il fait partie de la loi sur la prévention et la réduction intégrée de la pollution. C'est donc une banque de données à laquelle les sociétés polluantes doivent envoyer les informations sur le rejet et les transferts de ces substances nocives. En 2005, près d'un millier d'entreprises et quelques 600 sociétés ont été concernées et, si je ne m'abuse, il y a eu 72 substances qualifiées de polluantes. Mais entre-temps, la Commission européenne a lancé une directive élargissant le nombre de ces substances.
Les de la nouvelle loi se proposent de simplifier et de rendre plus transparent tout le processus. Il s'agit notamment de mettre les données du registre gratuitement à la disposition du large public pour respecter son droit aux informations sur l'environnement.
Aujourd'hui, déjà, celui qui s'intéresse à tout ça peut s'informer sur Internet à l'adresse www.irz.cz. Le site existe donc déjà et on y trouve les informations sur la situation de 2005. Ensuite, si la loi est approuvée, les données disponibles seront un peu plus détaillées et le registre couvrira 21 substances polluantes en plus. À partir du 1er janvier 2007, la République tchèque a l'obligation de transmettre ses informations à la Commission européenne et ces données sont donc centralisées au niveau européen.
Le nombre de substances nocives qui seront suivies par ce système de contrôle perfectionné atteindra 94 et les entreprises seront mieux surveillées. Selon le ministre Bursík, certaines d'entre elles pourront en tirer profit.
Il s'est avéré dans plusieurs cas que les mesures de surveillance des rejets ont aidé certaines sociétés concernées à mieux gérer leur production. Elles ont appris par exemple que certaines technologies qu'elles utilisaient n'étaient pas optimales parce qu'elles produisaient trop de substances polluantes et la réduction du taux de ces substances leur a permis de faire des économies.
La loi doit également simplifier le système de communication entre les entreprises et les organes administratifs. Désormais, les rapports pourront être envoyés aussi par e-mail.
Et on passe maintenant au sport et au football. Avant d'entamer début septembre la dernière ligne droite décisive dans la course à la qualification pour le championnat d'Europe 2008, la République tchèque affrontait l'Autriche en amical mercredi soir à Vienne. Face à l'un des pays co-organisateurs du prochain Euro et dans le stade qui accueillera la finale, les Tchèques n'ont pu faire mieux que match nul, un but partout, après avoir livré une performance qui, sans être mauvaise, n'a pas vraiment rassuré les observateurs. Peu mieux faire a d'ailleurs reconnu le sélectionneur Karl Brückner à l'issue d'un match sans enjeu ni saveur, comme le sont la majorité de ses rencontres internationales de début de saison. En l'absence de leur meneur de jeu, Tomáš Rosický, blessé à un genou, les Tchèques ont souvent manqué d'imagination et n'ont été inspirés qu'un petit quart d'heure en tout début de partie, se créant alors deux occasions nettes qu'un Milan Baroš actif et remuant, mais en manque de réussite, ne parvenait cependant pas à concrétiser. Malgré l'ouverture du score quelque peu chanceuse à la demi-heure de jeu par un Jan Koller, lui aussi bien en jambes, et dont on se demande tout de même pourquoi elle n'est pas plus utilisée à Monaco, la suite fut nettement plus terne face à une formation autrichienne aux moyens pourtant limités. En deuxième mi-temps, ce sont même les locaux qui se montraient les plus entreprenants face à des Tchèques qui effectuaient pas moins de 6 changements dans leur 11 de départ. Et alors que l'on semblait se diriger tout doucement, et parfois même sur un rythme soporifique vers une courte victoire, les Autrichiens étaient finalement logiquement récompensés de leurs efforts à une dizaine de minutes de la fin, en égalisant par Martin Harnik suite à une grossière erreur de la défense centrale tchèque. Au total donc un match qui n'aura guère fourni de gage de sécurité sur l'état de forme des Tchèques, même si l'entraîneur Karel Brückner a retenu quelques enseignements positifs.
Nous avons contrôlé le jeu en première mi-temps et fait un début de match qui a répondu à ce que j'en attendais avec des occasions. Koller et Baroš m'ont bien plu par leur rapacité. Ils ont démontré qu'ils étaient en bonne santé et en forme. La seconde période a été plus délicate. L'adversaire nous a plus pressés et nous nous sommes cherchés tant en défense que dans l'entrejeu. Mais il nous manquait de nombreux milieux de terrain aujourd'hui et il a fallu improviser. J'espère seulement que toutes ces blessures ne seront pas trop graves et qu'elles ne nous diminueront pas pour les matchs de qualification.
Des matchs de qualification décisifs, puisque outre Saint-Marin, qui ne devrait être qu'une formalité le 8 septembre, la République tchèque recevra 4 jours plus tard l'Irlande pour un duel où la défaite sera interdite, les Irlandais pointant seulement à 1 point des Tchèques, deuxième au classement du groupe D, dominé par l'Allemagne. Nouvel épisode de notre petite série estivale dans laquelle nous donnons la parole aux touristes en visite dans la capitale tchèque pour qu'ils nous livrent leurs impressions, bonnes et mauvaises, sur le tourisme ici. Aujourd'hui avec un jeune Marseillais, pas insensible au charme des fameux tchèques.
Je viens de France, de Marseille, et je travaille en banque, je fais la gestion de patrimoine.
Et vous vous appelez ?
Romain.
Depuis combien de temps est-ce que vous êtes à Prague ?
On est arrivé vendredi de la semaine dernière.
C'est la première fois que vous êtes là ?
Non, je suis déjà venu une fois il y a 9 ans.
Alors, c'est votre endroit préféré d'abord, ma première question.
Karl Hovmost, le pont Charles, c'est super beau. La place principale qui est derrière aussi, c'est pas mal. Et puis, toutes les artères qu'on a ici, j'ai plus les noms en tête, mais tout le centre-ville, c'est super beau. Ouais.
Si vous aviez un endroit à recommander à quelqu'un qui voudrait venir à Prague, ce serait le pont Charles d'abord ?
Oui, je pense que ça représente bien la ville en elle-même. À Paris, on a la Tour Eiffel, ici le pont Charles, c'est très représentatif du pays en lui-même.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici, à part l'architecture et les monuments comme ça ? Il y a des choses qui vous sont agréables à Prague ? On dit souvent, les garçons me disent les femmes, mais je ne sais pas si c'est votre avis.
On va y venir, ce sera le dernier point, mais c'est vrai que le centre-ville est magnifique, c'est chargé d'histoire. Ça reste une petite ville des pays de l'Est qui est assez bourgeoise, assez riche. Et vous avez raison de dire que les spécialités féminines locales restent appréciables.
Alors si on passait au mauvais côté, est-ce qu'il y a des côtés désagréables qui vous ont surpris pour cette deuxième visite ici ?
C'est vrai que dès qu'on sort le soir, en fait, on est de manière générale très alpagué par des chalands qui souhaitent nous amener dans des cabarets locaux. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Sinon, de manière générale, on n'a pas eu de problème en particulier.
Qu'est-ce qui vous reste à faire? Combien de temps vous restez encore et qu'est-ce qui vous reste à faire à Prague?
Alors, on part vendredi, donc on en sera là une grosse semaine. Il reste tout Malastrana, Pietrine, vers la grande Tour Eiffel, si je me rappelle bien.
Et, la petite Tour Eiffel. La
Tour Eiffel, oui. Et après, on aura fait un grand tour du centre-ville et on pourra avoir une activité nocturne un peu plus fournie en fin de semaine.
Alors justement, les soirées pragoises, c'est comment par rapport aux soirées marseillaises?
Soirée marseillaise, soirée parisienne, c'est pas mal. On a fait le mismatch, c'était bien. On a fait la boîte à touristes Carlo Villesne, c'était correct aussi. On était au Bombay hier soir, c'était bien également. Moi, j'aime bien. Pour une petite semaine, c'est super intéressant et plaisant.
Il y a d'autres endroits en République tchèque où vous êtes allé ou vous aimeriez aller en dehors de l'hôpital?
Alors moi, j'ai été il y a 9 ans à Karlovy Vary parce que j'ai eu l'opportunité qui m'était présentée d'y aller. J'avais trouvé ça vachement intéressant et une petite ville thermale à l'ouest. Et après, pour le reste, on n'a pas suffisamment de temps à affecter à un voyage un peu plus long puisqu'après, on va sur Bratislava et on va sur Budapest dans les semaines qui viennent.
Et dernière question, qu'est-ce que vous ramenez de Prague aux amis ou à la famille?
Alors déjà, personnellement, des souvenirs intéressables. Et pour la famille, moi, j'ai acheté un petit bracelet pour ma petite sœur en ambre ou en pierre locale.
Voilà, et c'est ainsi que se referment ces faits événements. Merci donc de votre attention et de bien vouloir rester en notre compagnie pour la suite de notre programme.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Le président de l'Office tchécoslovaque des statistiques, Jan Auerhahn, fut également le premier président de l'Institut tchécoslovaque de l'étranger à Prague, fonction qu'il exerça jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. L'Institut a été fondé à l'initiative du premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigue Masaryk, en signe de reconnaissance aux compatriotes pour leur soutien au cours de la création de la Tchécoslovaquie indépendante. Le projet de fondation de l'Institut tchécoslovaque de l'étranger fut approuvé à l'occasion du 10e anniversaire de la fondation de la République tchécoslovaque. La réalisation du projet revenait au ministère du Travail et des Affaires sociales. L'Assemblée générale constituante, qui a eu lieu le 20 décembre 1928, nomma Jan Auerhahn président de l'Institut. Il est l'auteur d'ouvrages importants sur les communautés tchèques, par exemple les Tchécoslovaques en Yougoslavie, sur les traces des colonies d'émigrés en Prusse et en Saxe, les colonies tchèques en Russie et dans le Caucase. Jan Auerhahn est co-auteur de l'étude démographique des Tchèques à l'étranger et était rédacteur du trimestriel « Nous à l'étranger ». Jan Auerhahn est né le 2 septembre 1880 en Bohême du Sud-Est, dans la famille d'un inspecteur des eaux, profession qui s'héritait de père en fils. Mais Jan a d'autres projets en tête. Il caresse l'idée de devenir avocat, puis écrivain et journaliste. J'ai invité à l'antenne l'arrière-petite-fille de Jan Auerhahn, Madame Hanna Marsol. Bonjour.
Bonjour. Le 19 mars 1896, alors qu'il n'avait que 16 ans, Jan Auerhahn écrivit dans son journal la ligne suivante. Autrefois, je voulais devenir avocat et être élu député, mais à présent, je vois les choses différemment. Les avocats volent les gens, et cela, moi, je ne peux pas le faire. Quand j'aurai mon doctorat, je deviendrai journaliste.
Déjà très jeune, il est fasciné par la vie des Tchèques vivant à l'étranger. Il lit des revues tchèques publiées à l'étranger, le roman historique du célèbre écrivain Alois Jirásek relatif à ce sujet, et écoute les récits de son père. Il n'a que 16 ans lorsqu'il écrit son premier article publié dans la revue Le Peuple Tchèque. Finalement, il choisit de faire des études de droit à l'université Charles à Prague, que plus tard, il complète par 2 ans d'études d'économie. Au cours de ses études, Jan est correspondant pour plusieurs revues telles que Vyšehrad ou le journal des étudiants progressistes. Un de ses articles est axé sur les émigrés tchèques, lequel il traite en détail le projet sur l'organisation du soutien et d'assistance aux compatriotes. Jan Auerhahn obtient son premier poste au bureau des statistiques du pays du royaume de Bohême. En 1919, l'institution devient l'Office des statistiques de l'État et Jan Auerhahn en sera nommé le président 10 ans après sa création. Parallèlement à ses activités au bureau des statistiques, il se consacre à la problématique de ses compatriotes vivant à l'étranger. Il va donc de soi qu'il participe à la création de la section extérieure du Conseil national tchèque, dont il est nommé correspondant des questions concernant les Tchèques vivant en Europe. Il écrira à ce sujet de nombreux traités très intéressants. Après la guerre, Jan Auerhahn se consacre à l'élaboration du projet de constitution de l'Office national des statistiques, et continue à travailler au sein de la section extérieure du Conseil national tchèque, axant ses activités surtout sur le renouvellement de contacts avec les compatriotes. Il est persuadé que la constitution de la République tchécoslovaque, en tant que nouvel État démocratique, supprimera la cause principale qui obligeait les Tchèques et les Slovaques à quitter dans le passé leur patrie. Il est vrai que des centaines, voire des milliers de Tchèques et Slovaques sont revenus au pays. Mais la majorité des émigrés est tout de même restée à l'étranger. Dans le cadre de sa fonction, Jan Auerhahn effectue de nombreuses missions, par exemple celle à la communauté tchèque en Croatie, en Bosnie ou à Zelov en Pologne, lieu de résidence des Tchèques ayant quitté le pays après la bataille de la Montagne Blanche. Mais jusque-là, il autofinance ses voyages. Ce n'est qu'après 4 ans d'activité dans le domaine qu'il obtient une subvention de l'État pour se déplacer vers les communautés tchèques vivant en Russie. Il écrira sur ce voyage 2 études importantes. Entre autres, il a également effectué des missions en Silésie, dans le Caucase et en Crimée. En 1928, Jan Auerhahn participe à la création de l'Institut tchécoslovaque de l'étranger, dont il est nommé le premier président. L'objectif de l'Institut fut de développer un programme performant d'assistance permettant d'aider les compatriotes à s'installer dans les pays étrangers, ainsi que d'être en contact plus étroit avec les communautés. En 1939, les nazis envahissent la Tchécoslovaquie et l'Institut tchécoslovaque de l'étranger est fermé. Jan Auerhahn travaille encore quelque temps au sein de l'organisation Domovina, qui 2 ans plus tard est également fermée. Il ne reste que la clandestinité.
Mon arrière-grand-père était un grand patriote. Il ne cachait pas son désaccord profond avec l'occupation de son pays. Il n'hésitait pas à qualifier Hitler publiquement de, je cite, « vaurien ». Son intégrité lui aura été fatale. Il fut arrêté au cours de l'arrestation massive qui a suivi l'attentat sur le protecteur du Reich, Reinhard Heydrich, et fut exécuté par les nazis le 9 juin 1940. Aujourd'hui, son nom figure sur la plaque commémorative du champ de tir de Kobylissi à Prague.
Madame Arceau, je vous remercie d'avoir participé à notre émission.
Voilà, c'est la fin des émissions en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. Et rendez-vous dès demain sur nos ondes. À bientôt donc. Ahoy.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz. And finally, listeners in South